Le grand jury RTL Le Figaro LCI, invité Alain Minc, essayiste. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du grand jury. Vous en êtes donc l'invité, Alain Minc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions d'Étienne Moujotte du Figaro et d'Éric Revel d'LCI. Nous parlerons avec vous, bien sûr, beaucoup de la crise, de ses conséquences, des solutions, éventuellement celles qui sont mises en œuvre. On essaiera de les expertiser ensemble, celles que vous pourriez préconiser. Et vous traitez de la crise dans ce livre que publie Grasset, 10 jours qui ébranleront le monde, qui sont, selon vous, 10 hypothèses de ce que pourrait être...
10 fables.
10 fables. 10 fables donc liées à la crise, ce qu'elle pourrait entraîner de modification dans notre monde. La crise, à votre avis, Alain Minc, on l'avait prévue, pas prévue? Des gens sérieusement disent, ben, moi je l'ai vu venir. Vous croyez que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai?
Non, écoutez, on savait qu'il se passerait quelque chose. On devinait tous quand on vit dans la sphère financière. Par exemple, moi, je m'étais dit un jour où j'ai vu, vous savez, ce qu'on appelle un LBO, c'est-à-dire une construction financière un peu bizarre, se financer au même taux que l'État allemand. Ça m'avait interpellé. Je trouvais ça quand même un peu étrange.
Mais de là
à penser que ça arriverait aussi brutalement, que ça aurait cet effet de propagation, qu'il y aurait la décision aberrante du gouvernement américain de laisser tomber Lehman, non, je crois pas. Il y a un Américain qui, en effet, avait prévu la crise des subprimes. À mon avis, sa fortune est faite pour les 10 ans qui viennent.
Je ne voudrais pas du tout être désagréable. Par exemple, pour rester en France et pour parler de gens que nous connaissons, Henri Guénaud, conseiller spécial du président de la République, peut dire, moi je l'avais prévu, ou bien Jacques Attali dit, moi je l'avais prévu.
Non, alors... mais mon ami Henri Guénaud attend la crise du capitalisme depuis 15 ans.
Ah, voilà. Donc, un jour, on a fatalement raison.
Quand il y a une secousse, c'est une grosse secousse. Ça n'est pas la crise finale du capitalisme, comme on dit chez Marx.
Étienne Moujotte. Alors,
vous-même, Alain Minc, vous parliez l'été dernier de petite récession. Puis, au mois de décembre, de récession classique. Est-ce que vous diriez maintenant, on est dans une longue et très forte dépression?
Écoutez, moi je crois qu'il faut quand même proportionner, pour le village français, après on pourra parler du reste, proportionner les choses. Bon, on va faire cette année entre moins 1,5 et moins 2 en termes de PIB. Bon, c'est-à-dire qu'en termes de PIB, on va revenir grosso modo au début du printemps 2007.
Produit intérieur brut.
Donc la France va produire à la fin de l'année ce qu'elle produisait au printemps 2007. C'est pas 1930. Bah, sur la crise, je voudrais vous proposer le mode de raisonnement suivant, mais peut-être ne le partagerez-vous pas. Qui paye aujourd'hui cette crise et qui ne la paye pas? Qui paye la crise? Les gens qui sont en intérim et dont on interrompt les contrats. Les gens qui sont en CDD, contrat à durée déterminée qu'on ne renouvelle pas, les jeunes qui ont plus de mal à entrer sur le marché du travail, et à travers les premiers plans sociaux, une partie de la main-d'œuvre stable, mais une légère partie des grands groupes. Ça veut dire probablement, on le voit dans les chiffres du chômage, 300 000, 400 000, 500 000 personnes. On multiplie par les familles, ça fait 2,5 millions de Français. 3 millions peut-être, et ce sont ceux dont il faut s'occuper, peut-être encore plus qu'on ne l'a fait. Et puis, il y a qui ne paye pas la crise? Les fonctionnaires, tous les gens qui sont sous un statut, et ça fait presque la moitié de la population active, les retraités, dans une population vieillissante, ça n'est pas négligeable, les bénéficiaires de contrats à durée indéterminée, pour l'essentiel, dans les grands groupes. Ceux-là, aujourd'hui, leur pouvoir d'achat augmente, ce qu'on oublie. Pourquoi? Parce que leur hausse de salaire ou les hausses des retraites sont indexées sur l'inflation de l'an dernier. Or, l'inflation baisse, mais baisse mécaniquement. Donc, je crois qu'il faut quand même mesurer qu'il y a une immense différence entre l'Europe continentale et deux pays, pour des raisons de fond, que sont les États-Unis et l'Angleterre.
Mais une petite objection, quand même, qui n'est pas petite. Vous dites les retraités, ceux qui ont placé une partie de leurs économies dans des actions. Vous croyez que cela...
Je parle de leur pension de retraite.
Oui, non, mais bien sûr.
Mais attendez. Non, mais après,
vous que
le patrimoine... D'abord, les actionnaires... Alors ça, on va y venir. Les actionnaires individuels ne sont pas des millions en France. C'est 3, 4, 5 millions de personnes. Bien sûr que cela ressent la crise. Mais... la crise n'a pas touché dans ses profondeurs, à ce stade, l'ensemble de la population française. Alors le ressenti est différent. Le ressenti est différent, ça c'est évident. Pourquoi? D'abord, un peu à cause de vous. C'est-à-dire, comme vous êtes dans un secteur particulièrement sinistré, comme l'automobile, vous projetez votre propre déprime sur le monde entier.
Vous, c'est la presse. Hein.
Les médias. Mais c'est pour vous provoquer. Je vous provoque, mais je pense en parler.
Je vais y arriver.
Mais c'est fait pour. Les banquiers, Les banquiers sont les seuls qui parlent de l'économie globale. Jamais un industriel qui fabrique des siphons de plomberie parle de l'économie globale. Et les banquiers sont en effet dans un état calamiteux. Et puis, il y a en effet une espèce d'onde de choc qui amène à mon avis à se demander, au fond, l'Europe continentale est relativement par deux choses. D'abord son système social, et nous Français, ce qui fait que nous courons moins vite que les autres quand le peloton va très vite, fait que nous ralentissons moins quand les autres ralentissent. Et puis alors une chose qui est la grande différence avec les États-Unis et l'Angleterre, c'est qu'on a de l'épargne. En Angleterre et aux États-Unis, les ménages sont endettés. Si vous voulez qu'ils dépensent, vous êtes obligé de leur donner l'argent, automatiquement. Ici, le problème, c'est que si vous donnez l'argent à une partie de la population, une partie épargnera. Ceux qui sont très nécessaires dans le besoin dépenseront. Mais ça n'est pas des millions de Français.
Alors, je vais vous provoquer aussi à la main.
C'est la règle du jeu,
ce qui fait l'originalité, me semble-t-il, de votre essai, c'est que vous passez une partie à décrire cette crise économique avec une analyse qui est très marxiste, me semble-t-il.
Mais je me prétends le dernier marxiste.
Oui, Et vous avez, il y a deux facteurs bien connus, hein, qui explique toujours les hauts et les bas de la croissance dans le monde, c'est le capital et le travail. Vous y ajoutez un troisième facteur qui est la confiance. Vous avez dit cette crise est grotesquement psychologique. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit que de restaurer de la confiance, on a le capital, il est là, on a le travail, qu'est-ce qui pourrait faire que le monde redémarre sur une confiance plus forte aujourd'hui ?
Alors, si vous me permettez d'abord de rendre un hommage, et ce n'est pas Étienne Mouchotte qui m'en fera grief, à quelqu'un qui a introduit la notion de confiance dans la réflexion économique, ça n'est pas un économiste, c'est Alain Perfit. Et Alain Perfit a touché un point incroyablement sensible. Je crois que la confiance, c'est-à-dire la psychologie, est décisive. Qu'est-ce qui fait que la confiance repartira ? À mon avis, deux choses. Le sentiment que la Chine ne faiblit pas et redémarre, premièrement, et d'autre part le sentiment que la crise bancaire américaine est résolue, ce qu'elle est loin d'être. Aujourd'hui, à mes yeux, la seule incertitude vraiment lourde, c'est que la nouvelle administration ne sait pas comment traiter la crise bancaire.
Mais par exemple, sur la confiance, et pour rester sur le marché français, est-ce que ce serait une bonne idée de lancer un emprunt national ? Vous avez parlé du taux d'épargne français qui est très important. Si on arrivait à lancer cet emprunt, est-ce qu'on ne redonnerait pas confiance aux Français en disant vous êtes solidaire dans la crise ?
Mais là, vous avez des recettes du temps d'Antoine Pinet. Aujourd'hui, l'État français se finance sans aucun problème.
On se souvient encore de son nom,
Il se finance quasiment à taux zéro. Alors qu'est-ce que vous voulez lui donner ? Une indexation sur l'or qui, comme dans l'emprunt de M. Giscard d'Estaing, a failli ruiner les finances publiques. Il y aura un jour un problème du financement des États, de l'ensemble des États. On n'y est pas. Pour l'instant, la fuite devant la monnaie est telle. Je vais vous donner un exemple de l'absurdité qu'on a connue à l'automne dernier. Les banquiers recevaient de l'argent de la Banque centrale. Et qu'est-ce qu'ils faisaient du surcroît d'argent quand ils en avaient ? Ils achetaient des bons du Trésor. Ils n'acceptaient pas de le prêter à une autre banque qui était comme eux garantie par l'État. Vous avez des entreprises publiques dans les grands pays d'Europe qui, au lieu de placer leurs excédents de trésorerie, et certains en ont beaucoup, en certificat de dépôt de banque garanti par les États, préféraient acheter des bons du Trésor. La trouille du monde entier aujourd'hui finance les États. Alors en effet, quand la confiance reviendra, les gens chercheront peut-être moins à se réfugier du côté des bons du Trésor. Mais je vous en prie, pas d'emprunt Pinet au XXIe siècle.
La crise dont nous parlons est venue des États-Unis. Vous avez dit là tout à l'heure au détour d'une phrase que, selon vous, l'administration américaine ne savait pas quoi faire face à la situation des banques dans ce pays.
Oui.
Vous pouvez préciser votre pensée.
C'est d'ailleurs quelque chose que, enfin, les lecteurs que vous êtes de la presse américaine le ressentent aussi. Hein. On voit bien que autant le pan international de l'administration Obama s'est installé avec un professionnalisme marquant, autant l'administration économique faceille. Hein. Elle faceille d'abord parce qu'il y a un problème à l'évidence de prise du pouvoir par les gens, mais enfin on ne va pas entrer dans les détails.
De prise du pouvoir par les gens, vous voulez dire
c'est ceux qui ont été nommés, veut dire Monsieur Geithner n'a pas le professionnalisme au Trésor américain de Madame Clinton au secrétariat d'État. C'est une évidence. Et deuxièmement, c'est très compliqué le système bancaire américain. S'il n'y avait que 4 banques, à la limite, vous les nationalisez pendant 2 ans. Il y a 2000 banques aux États-Unis. Il n'y a pas, de ce point de vue, un système juridique même qui permet leur nationalisation. Donc, on voit qu'ils hésitent et qu'ils se dandinent d'un pied sur l'autre. Mais tant que les banques américaines n'auront pas retrouvé leur équilibre, le problème demeurera ouvert.
Alors, précisément, dans votre essai, dans les 10 jours qui ébranleront le monde, il y a le jour supposé où l'euro vaudra 2,50 $. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que le dollar va continuer à glisser de manière très régulière et très forte?
Non, ce que je veux dire dans cette fable-là, puisque ce ne sont jamais des prévisions que je fais, je prends une hypothèse, je fais une fable qui me permet de disserter un petit peu ou de bavarder un peu. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si un jour ça arrive, c'est la pire des crises. Pourquoi? Les banques centrales et les États ont réagi avec beaucoup d'intelligence et de professionnalisme à ce qu'on a connu. Face à une crise monétaire, ils n'ont aucune arme. Aucune arme. Monsieur Trichet, qui a fait un boulot formidable, n'a que la parole. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas peser sur les marchés d'échange. Vous n'avez que des moyens infinitésimaux. Tandis que là, il a pu assurer la liquidité du système. Deuxièmement, le dollar est tenu à bout de bras, en réalité, par les achats chinois de bons du Trésor. D'ailleurs, on l'a mesuré la semaine dernière. Je veux dire, Madame Clinton, qui est une grande réaliste, qu'est-ce qu'elle a fait à Pékin? Elle a fait un deal entre des arrière-pensées, qui est, vous continuez à financer le déficit américain, et je vous parle pas des droits de l'homme. Ce qui, d'ailleurs, de la part d'une administration qui faisait des droits de l'homme un drapeau, est intéressant. Et le jour où les Chinois voudraient obtenir des concessions politique majeure des États-Unis, il suffit qu'ils disent qu'ils arrêtent d'acheter. Donc il est clair que le dollar est dans une situation artificielle. Cela dit, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il y est. Je ne dis pas que ça va arriver demain, mais la clé de l'équilibre monétaire américain n'est pas à Washington, elle est à Pékin.
Vous venez de rendre hommage à Jean-Claude Trichet. On se souvient que le 8 août 2007, il était le premier à injecter massivement de l'argent dans le système.
Absolument.
Jusqu'au discours de Toulon, Nicolas Sarkozy a beaucoup critiqué la Banque Centrale Européenne et Jean-Claude Trichet. À votre avis, est-ce qu'il a eu tort?
Écoutez, ça veut dire que quand on me dit que j'ai parfois un peu d'influence sur Nicolas Sarkozy, pour ce qui était de Jean-Claude Trichet, je n'en ai eu aucune. Je pense que Jean-Claude Trichet a mené une politique exceptionnellement audacieuse.
Mais depuis la crise ou
depuis
avant?
Le 8 août 2007. C'est-à-dire qu'il a été le premier à comprendre que le système explosait le 8 août 2007, et ce n'est pas son collègue américain qui l'a compris. Quant à son collègue anglais, alors il était aux abonnés absents. Enfin, une politique absurde. Et il a eu une politique parfaite.
Et vous pensez qu'il a raison de ne pas vouloir aller comme les Américains au taux zéro?
Je crois qu'il a dit... Enfin, il faut comprendre une langue particulière qui s'appelle le trichétien. Hein. C'est une langue qui a des codes un peu bizarres.
En général, en anglais, d'ailleurs.
Et dans un anglais un peu spécifique. Et Trichet a dit jeudi quelque chose, en trichétien, à mon avis très important. Il a dit, je regarde vers des moyens non conventionnels. C'est beaucoup plus important que de baisser les taux de 1% à 0,5%. Ça veut dire, je me prépare éventuellement à financer directement les entreprises. Au fond, c'est comme une trachéotomie. Puisque le système bancaire ne finance plus les entreprises, je fais une trachéotomie et je finance les entreprises en direct. C'est beaucoup plus important qu'un demi-point.
Mais pourquoi le système bancaire ne fait plus son travail? Qu'est-ce qui l'en empêche?
Le système bancaire ne fait plus son travail, d'abord parce que il n'a pas les fonds propres pour le faire. C'est pas pour rien que toutes les banques, y compris de très bonnes banques comme BNP Paribas, sont passées au guichet. En plus, je crois qu'il y a eu un problème psychologique qui est en train de se régler. Au fond, les banques n'ont pas su qu'elles ont failli mourir, sauf leur patron. Elles étaient prospères, arrogantes, sûres d'elles. Elles ont failli mourir en une nuit, elles ont été sauvées en une nuit. Les technostructures des banques n'ont pas découvert ce que dans une entreprise vous découvrez quand ça va mal, c'est-à-dire un long apprentissage de la difficulté. Et donc elles ont eu du mal à s'ajuster. Aujourd'hui, avec des fonds propres qui sont reconstitués, une espèce de pression de tous les gouvernements, parce que la pression du gouvernement français est exactement la même que du gouvernement allemand ou le gouvernement anglais. Donc quand au MEDEF on entend crier les abus d'interventionnisme de l'État français, ils ne lisent pas la presse anglaise ou la presse allemande. Il faut savoir que le Financial Times, bible libérale s'il en est à Londres, a demandé la nationalisation complète du système bancaire. Donc maintenant ça se remet en route, mais avec des moyens étroits et puis encore des trous dans la... Ils ont des trous dans leur carlingue. Ils ont encore des pertes pour certains à passer. Enfin, on peut parler de banque populaire et caisse d'épargne, si vous voulez, de ce point de vue.
C'est-à-dire, vous voulez dire quoi?
C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a quand même en France... La France, au fond, a échappé à ce drame, sauf deux sinistres. Un petit Dexia, un gigantesque Banque Populaire Caisse d'Épargne. C'est pour ça que moi j'ai trouvé très surréaliste le débat de la semaine dernière sur la nomination de François Pérol. Je veux dire, à circonstances exceptionnelles, c'est comme en guerre, traitement exceptionnel. Il fallait laisser les incapables qui ont mené ces deux banques dans le mur recevoir 10 milliards d'euros et continuer comme avant leur petite cuisine tranquille, mutualiste et paisible. Il fallait évidemment envoyer un proconsul.
Puisque vous ouvrez la parenthèse Pérol, mais on va la refermer, on va revenir à la crise. Circonstances exceptionnelles, l'État peut s'affranchir de ses propres règles d'après vous ?
J'aurais aimé que le président de la commission de déontologie, conseiller d'État, dise cette chose en effet simple, qui existe dans le droit administratif français, les circonstances exceptionnelles existent. Et dans un cas d'un sinistre de cette ampleur, on était dans les circonstances exceptionnelles. J'ajouterais une chose.
Il y a des règles, il y a des lois, il y a des.
Non, mais j'ajouterais une chose.
Qui veut décider qu'on peut s'affranchir de telle ou telle loi ?
Ah, mais c'est le Conseil d'État valide les circonstances exceptionnelles. On ne va pas avoir un débat de jurisprudence. Je voudrais ajouter une chose. Si Banque Populaire et Caisse d'Épargne étaient une banque prospère, à l'image du Paribas d'antan, détenant des participations dans la moitié de l'économie française, nommant les présidents de ces entreprises, évidemment la nomination de Pérol aurait été une extension du pouvoir présidentiel. Mais c'est quoi Banque Populaire Caisse d'Épargne ? C'est la banque des classes moyennes dont elle finance les acquisitions de logements, les acquisitions de voitures et la vie courante. Si vous croyez que de ce point de vue, le pouvoir de Nicolas Sarkozy va être accru parce que son secrétaire général adjoint va financer les classes moyennes, alors c'est vraiment une drôle de vision
non,
du pouvoir.
On pensait simplement que l'État avait davantage d'habileté et de respect des règles qui sont les siennes pour éventuellement convoquer en urgence une commission de déontologie, parce que si on ne convoque pas la commission
non,
de déontologie,
je suis pas sûr qu'il n'y a pas à avoir un long débat là-dessus. C'est aussi un cache-sexe, hein, la commission de déontologie. Mais je pense qu'on
on
aurait
peut se débrouiller autrement. Dans
franchement, on aurait peut-être pu se débrouiller un peu autrement. Voilà. Mais sur le fond, ça n'est pas une extension du pouvoir régalien de l'État.
Non, mais là, on tombe par terre. C'est quand on nous dit la commission de déontologie se réunit une ou deux fois par mois, donc ce sera le 11 mars. Moi, ça me laisse pantois. Si elle peut se réunir instantanément, si on la saisit.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Le Conseil d'État ne vit pas au rythme des quotidiens.
Mais, il fait bien.
Revenons à la crise. La France, tout de même, a enregistré 90 000 chômeurs supplémentaires au mois de janvier.
Oui.
On dit, on se trompe ou pas ? Dites-nous votre avis, Alain Main, que cette pente-là, nous sommes confrontés pour un moment.
Non,
c'est-à-dire de destruction d'emplois dans l'économie française.
On va continuer à avoir une destruction d'emplois dans les mois qui viennent, et en particulier à cause de la catégorie dont je parlais. Les intérimaires, les postes ont été supprimés très vite car les entreprises commencent à s'ajuster à l'américaine, c'est-à-dire très très vite. Les contrats durés à déterminer, beaucoup ont déjà été faits, mais on touche maintenant la part des CDI, c'est-à-dire des emplois stables, qui sont atteints. Bien évidemment, malheureusement, le chômage va augmenter. Et c'est sur cette fraction de la population qu'il faut concentrer nos efforts.
On peut quand même imaginer qu'on est confronté pour de longs mois à ce type de crise, parce que le début de votre propos dans cette émission est plutôt optimiste, mais au fond il n'y a pas beaucoup
il est relativiste.
Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui permettent de nourrir cet optimisme.
Je ne suis pas du tout optimiste.
Relativiste.
Il est relativiste.
D'accord.
Je voudrais quand même que la société française, et en particulier ceux qui croient vivre la crise sans la vivre, pensent à ceux qui la vivent réellement. Et que de ce point de vue, l'enjeu c'est celui-là, c'est l'effort que l'on fait pour couvrir ceux qui ont pris en réalité la vague de plein fouet.
Enfin, vous êtes quand même très optimiste. Dans livre page 72, la finance internationale croit avoir connu la pire crise bancaire depuis 1930. Illusion, point d'exclamation. Quelques pourcentages de PIB sur 2008, 2009 et 2010. Rien de plus.
Oui. Mais c'est ce que je vous ai dit, quelques pourcentages de PIB. C'est-à-dire, si ça nous coûte 2% de PIB, 1 l'an prochain, c'est-à-dire... Ce que je voudrais dire, et je le dis un moment dans le livre, c'est qu'on est passé à un millimètre de la catastrophe absolue. Alors évidemment, je vous parle un peu comme un médecin qui rentrerait dans la chambre d'un malade qui a des tubes partout et qui lui tapote l'épaule en lui disant « Mon vieux, t'as vraiment eu de la chance ». La catastrophe, elle a failli se produire entre la réunion à l'Elysée du G4, l'effondrement de la bourse américaine et la réunion de l'Eurogroupe en présence de Gordon Brown.
Ça, c'est septembre de l'année dernière.
C'est début octobre. Cette semaine-là, si le plan de l'Eurogroupe n'avait pas été validé par les marchés, pas tellement pour la valeur des actions, mais parce que c'était une espèce de référendum de l'opinion économique, les marchés, à ce moment-là, on passait d'une crise qui concernait les élites économiques à une crise qui concernait les déposants. C'est-à-dire les gens allaient au guichet des banques retirer l'argent. Et on est vraiment passé, je crois, à un millimètre d'un désastre absolu. par rapport à ce désastre, je trouve qu'on payera un prix élevé, mais on a failli mourir.
Pour la compréhension de ce qui se passe en Europe, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, effectivement, les propos très importants de Jean-Claude Trichet de jeudi, au-delà de taux européens ramenés à 1,5%, il a ouvert la possibilité de financer directement les entreprises sous forme de billets de trésorerie, donc sans doute d'accroître la masse monétaire. Et quand on accroît la masse monétaire, on fait de l'inflation. Est-ce que d'une certaine manière, Jean-Claude Trichet ne va pas venir au secours des endettements colossaux des États en faisant de l'inflation? On sait que quand il y a beaucoup d'inflation, l'endettement est un problème secondaire.
Jean-Claude Trichet faire de l'inflation, non, ça sera
alors, vous êtes sur le, à mon avis, vous touchez, je crois, le vrai problème dans les deux ou trois prochaines années. Il est probable, d'abord, on ne règle le problème d'endettement que par la guerre ou par l'inflation. Mm-hmm. Donc, notre choix est fait. Bon, deuxièmement, il y aura, en effet, avec la masse monétaire qu'on crée, il y aura sans doute une montée de l'inflation dans deux ou trois ans. Et là, il peut y avoir des vraies tensions à l'intérieur des pays européens. Parce que les Américains feront comme ils font dans ces cas-là, c'est-à-dire ils laisseront l'inflation monter, ils auront une politique monétaire laxiste et ils compteront sur l'inflation pour effacer les dettes. Les Anglais feront exactement la même chose. Et vous aurez, à l'intérieur de la zone euro, une tension. Je crois que les tensions dont on parle aujourd'hui dans la zone euro sont illusoires, mais que celle-là est très importante. Entre les pays du Sud qui diront, bon, on fait comme les Américains, ils diront pas, soyons laxistes, mais on fait comme les Américains, et les pays d'Europe du Nord, notamment évidemment dirigés par l'Allemagne, qui diront, on applique les bonnes vieilles règles allemandes.
Mais qui a raison ? Qui a raison ? Les bonnes vieilles règles allemandes, ce sont des bonnes règles ou ce sont des règles archaïques ?
Écoutez, je vais vous faire une réponse mi-chef, mi-chou, ce qui va vous étonner, c'est pas mon tempérament. J'espère qu'on finira par un compromis entre les deux, c'est-à-dire qu'on sera un peu moins laxiste que les Américains l'auront été, et qu'on amènera quand même les Allemands à être un peu moins rigoureux. Mais ça va être une tension très forte.
Moi, je voudrais revenir un instant sur cette demande générale de plus d'États qu'on voit partout dans tous les pays. Est-ce que ça n'est pas, au fond, la défaite des libéraux et la victoire des socialistes, ou si on veut, les libéraux qui appliquent les principes socialistes ?
C'est vrai que on est dans une phase où le socialisme peut avoir pensé qu'il reprend des couleurs. Ce qui me frappe quand même, c'est que partout, on parle de mesures temporaires. Et d'ailleurs, même quand on entend...
On a l'habitude du temporaire qui dure.
Ah non, ça, c'est après. Mais même le Parti Socialiste français ne parle pas de nationalisation à la 1982. C'est-à-dire, on parle d'intervention de l'État pour régler un problème. Mais vous avez raison, je pense qu'il va y avoir deux enjeux dans les deux ou trois ans qui viennent très lourds. Un enjeu idéologique, qui est, une fois que l'État s'est installé, est-ce qu'il accepte...
Comment il sort ?
Est-ce qu'il accepte de partir par l'escalier de service après être entré par l'escalier d'honneur ? Pas évident. Et un deuxième enjeu, à peu près en réalité du même type, mais qui va nous concerner, nous, comme les autres, c'est à quel rythme redevient-on budgétairement vertueux ? Aujourd'hui, tout le monde est laxiste. Et au fond, bizarrement, en 2008, nous, Français, nous serons presque parmi les moins laxistes. On sera à moins 5,5. Les Américains, les Anglais sont à 12,13. Les Allemands seront pas loin de nous.
Pas 12,13, non. Les Irlandais en Europe seront plus 11 et quelques.
Mais s'ils sont à 10, 11 maintenant, ils vont finir à 12. Mais
on sera plus de 5, nous aussi, alors.
Mais nous, on sera plus de 5, c'est évident.
Déficit, pourcentage du déficit budgétaire
par rapport au
produit. Donc, bizarrement, nous serons un peu moins laxistes que d'autres. En revanche, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va, ayant pris le goût des maîtres des assignats, avoir envie de continuer ? Ou est-ce que dès que la reprise revient, on redevient vertueux ? Alors, à mon sens, c'est ça l'autre grand débat.
Non, avec c'est pas redevenir vertueux, c'est devenir vertueux.
Je suis d'accord, vous avez raison
parce
de me corriger.
Nous avons une trentaine d'années
aux États-Unis, sauf que les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont pas signé les critères de Maastricht ou le pacte de stabilité.
Non, mais vous savez, quand on va approcher pour certains pays de 100% du PIB en dette, pas besoin de critères officiels et de signatures, il suffit de regarder ce qu'on appelle les écarts de taux, les spreads, mais c'est un mot technique, et il suffit de regarder le niveau d'assurance des crédits d'État. Aujourd'hui, vous avez la hiérarchie très simple, il suffit de voir chaque matin ces chiffres, on voit que les Allemands sont encore impeccables, que les Français sont tout près des Allemands, C'est-à-dire le monde financier nous regarde mieux que nous nous regardons. Et puis alors après, le peloton s'étire comme dans le Tourmalet. Hein.
Ce qui vous peut faire craindre une crise monétaire, parce que les disparités entre pays qui ont la même monnaie deviennent tout de même considérables.
Non, moi je pense, autant je pense que, à ce que je disais à M. Revel, c'est-à-dire que la vraie tension est dans 2 ans, autant je crois qu'aujourd'hui, le fait que les spreads, enfin les écarts entre pays s'étendent est normal. C'était aberrant de penser que la Grèce se finançait comme l'Allemagne, comme mon histoire d'opérations financières tarabiscotées qui se finançaient au même taux que l'Allemagne. Par exemple, au Canada, qui n'est pas un pays menacé de dislocation économique, hein, je laisse de côté la politique canadienne, au Canada, les États s'endettent à des taux très différents.
Mais si la Grèce n'arrive plus à se financer, comment ça se passe dans la zone euro ?
Mais ça va être très simple. D'ailleurs, le ministre allemand des Finances l'a dit de la manière la plus claire. Or, il était bien clair que nous allions dire qu'il faut aider les Grecs. Une fois de plus, la question était à Berlin et la réponse a été limpide. La seule chose, c'est qu'il ne veut pas le faire par un plan général, parce qu'ils veulent faire en étant maître des conditions qu'on imposera à la Grèce.
Mais enfin, évidemment, l'exemple canadien n'a rien à voir avec le nôtre, puisque eux, ils ont fait des réformes, ils étaient en excédent budgétaire avant la crise.
Ça fait des années que le Québec, le brave Québec que nous aimons tant, paye ses emprunts beaucoup plus chers que l'Alberta.
Pour revenir aux fables que vous avez écrites, il y a un fait, à mon avis, majeur qui s'est produit la semaine dernière, sur lequel il n'y a pas une ligne, là, c'est pas une fable, c'est une réalité, c'est le rapprochement dans le nucléaire entre l'Allemagne et la Russie, entre Siemens et Rosatom, qui est une très grosse société russe. Vous dites le refus des Allemands de l'énergie nucléaire les met dans la dépendance de Moscou. Là, vous vous êtes trompé clairement, parce que Siemens, le rapprochement entre Siemens et les Russes sur le nucléaire, c'est un fait sans doute majeur. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est pas concevable qu'un journaliste comme vous ait mal lu. J'ai dit l'absence de nucléaire allemand crée la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe. C'est ça que je disais. Puisque quand j'ai fini ce bouquin, on n'était pas dans la situation où les Allemands faisaient un accord avec Siemens. Ce que je crois, c'est qu'il y a 2 cas de figure sur l'affaire très importante que vous citez. Où l'Allemagne décide de revenir au nucléaire. Ce qui suppose que Madame Merkel gagne les élections avec les libéraux. Ce qui n'est pas une certitude, malgré sa position personnelle très élevée. Elle reviendra au nucléaire, et là, en effet, les Allemands risquent d'ajouter à la dépendance du gaz, la dépendance de l'uranium. Si l'Allemagne ne revient pas au nucléaire sur son sol, l'accord Siemens est un accord commercial qui ne changera rien à la situation de l'Allemagne. Ils vendront ensemble des centrales en Chine.
On dit que les autorités françaises ont été inattentives aux alertes répétées de Mme Merkel. Faites-nous une place dans Areva, donc faites une place à Siemens dans Areva, parce que sinon on ira voir ailleurs. Est-ce qu'il y a une faute importante de stratégie de la part des dirigeants français ?
Écoutez, pour assez bien connaître cette affaire, je ne ferai pas la part entre le gouvernement et l'entreprise qui a, me semble-t-il, un peu trop tendance à dire cela en ce moment.
Et l'entreprise vous semble davantage fautive que le gouvernement dans ce dossier ?
C'est un peu ce qu'on déduit de vos propos. C'est l'actionnaire qui est parti. Et c'est le chef d'entreprise en général qui est responsable de ça.
Voilà.
Alors moi, j'ai toujours vu ça comme ça.
Oui, moi aussi.
Alors le chef d'entreprise qui n'est pas nommé est Anne Lauvergeon, patronne d'Areva. Voilà. Donc, nous allons faire une pause, écouter les informations et nous revenons ensuite pour la deuxième partie du grand jury d'Alain Minc. À tout de suite.